Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
Welcome to Denpasar. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. We wish you a good stay in Denpasar or a pleasant onward journey.
Selamat datang di Indonesia. Bienvenue en Indonésie.
La République d'Indonésie, en Asie du Sud-Est, comptabilise 17 000 îles, dont 922 sont habitées. Il s'agit du plus grand archipel au monde, avec une population estimée à 270 millions d'habitants, composée de plus de 1300 groupes ethniques et parlant plus de 700 langues. L'officiel, depuis l'indépendance le 17 août 1945, c'est l'indonésien ou Bahasa Indonesia, une des formes du malais, et pour la majorité de la population, ce n'est pas la langue maternelle. L'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde et le premier à majorité musulmane. Sa superficie est d'1 900 000 km², près de 4 fois la France hexagonale, qui s'étend sur 5000 km d'ouest en est et 1700 du nord au sud. Ces chiffres font de l'Indonésie le pays le plus étendu au monde.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
6 millions d'hectares de forêt ont été perdus entre 2000 et 2012. D'après les ONG, cette perte représente près d'un tiers de la forêt tropicale de Sumatra. Et l'orang-outan de Sumatra, endémique en Indonésie, est une espèce en danger. La mégapole de la capitale, Jakarta, sur l'île de Java, totalise 30 millions d'habitants. Face à de nombreux problèmes écologiques à Jakarta, un transfert de capital est prévu vers Nusantara, une nouvelle capitale en construction au milieu de la jungle tropicale de Bornéo, entraînant une nouvelle déforestation. L'artiste indonésienne la plus célèbre en France est Anggun, et vous connaissez très probablement les noms des premiers présidents indonésiens depuis l'indépendance, Suharto et Soekarno, le deuxième à partir de 1966. C'est la petite île touristique de Bali qui accueille cette nouvelle série de Suivez le guide. Bali, ce sont un peu plus de 5000 km² et Bali fait partie des petites îles de la Sonde. Sa population à majorité hindouiste totalise 4,3 millions d'habitants. L'aéroport de Denpasar, la capitale, est à 13 000 km au sud-est de Paris. Pour cette première promenade balinaise, nous marcherons avec notre premier guide, Wayan Dwika, vers le temple de Tanalot, signifiant « pays de la mer ». C'est le mont Saint-Michel balinais, nous dira notre guide, au sud-ouest de l'île, là où se concentre surtout le tourisme. Et nous ferons le marché avec notre second guide, Ayu Mira, qui nous mènera également à l'école.
Selamat datang di Pulau Bali. Bienvenue à l'île de Bali.
Selamat pagi, nama saya Wayan Dwika Puspawan, saya seorang Balinese dan perjalanan saya kita hari ini kita menuju Tanalot, di mana kita akan melewati desa-desa kecil yang ada di Bali dan juga persawahan. Et bonjour, je m'appelle Wayan Dwika, je suis le Balinais. Aujourd'hui, on va aller au temple de Tanalot, on va dans le village typique balinais.
Dans Wayan Dwika, quel est ton prénom, quel est ton nom?
C'est Wayan, c'est mon prénom, c'est comme le typique nom de balinais, c'est pour l'aîné exactement. Et mes surnoms, c'est Dwika, vous pouvez appeler moi Wayan ou Dwika, c'est comme vous voulez. Comme ça. Wayan Dwika, c'est mon complet nom.
Ah, Wayan Dwika. Nous avons quitté le premier hôtel de Bali et on est parti à pied, pas en voiture, même si on circule beaucoup en voiture à Bali. Il y a beaucoup de circulation à Bali. Il y a près de 6 millions d'habitants sur cette île de Bali.
À Bali, c'est environ 4 millions et demi.
Ah, 4 millions et demi.
Mais on a beaucoup de gens qui viennent par l'autre île et on a beaucoup de touristes qui restent à Bali, tout le monde de ça.
Donc ça monte.
Oui, ça monte. On habite environ avec 6 millions en général.
Ah, c'est ça, voilà. Et je regardais la densité d'habitants à Bali.
Oui.
Et c'est à peu près 750 habitants au kilomètre carré. Alors c'est beaucoup en France, si on fait la moyenne, pas à Paris, hein, oui. Mais la moyenne en France, c'est 100 km².
Oui.
Donc c'est 7 fois plus à Bali, mais c'est moins à Bali qu'à Java. À Java, c'est encore plus.
Exactement. Bali, c'est une petite île partie d'Indonésie, exactement. c'est le vrai monde balinéen. Tu sais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'habite avec environ 4,5 millions d'habitants.
Et alors, on va traverser quelques villages. On est dans un village pour rejoindre, et ce sera la première impression de Bali. Il y a quelques temples qui sont très, très connus à Bali, qui sont sur toutes les cartes postales, même si aujourd'hui, on trouve beaucoup moins de cartes postales que quand je suis venu la première fois. Les gens n'en voient plus de cartes postales. Mais l'un des temples les plus connus, c'est Tanalot. Hein.
Exactement. Le temple, c'est le plus connu. C'est comme l'icône. Temple qui s'appelle Tanalot, c'est comme le petit Mont Saint-Michel de Bali, hein, parce que situé dans la mer.
Ah oui, c'est ça, le petit Mont Saint-Michel, ça c'est juste, effectivement.
Et oui, on va aller là aujourd'hui, mais surtout sur l'île de Bali, on a beaucoup de temples. On a beaucoup de temples partout, exactement.
Partout. Et il y a des chiens à Bali.
Beaucoup, beaucoup de chiens partout. Hein. Beaucoup de chiens et des chiens.
Les chiens, on les entend moins.
Oui, exactement.
Précisons qu'on est dans un village, c'est la rue principale. Et de part et d'autre de cette rue, on voit surtout des temples. Hein?
Exactement.
Voilà. À gauche, à droite, partout.
Nous sommes balinais, environ 80% balinais, nous croyons avec hindouiste. Nous sommes balinais, on a les trois variétés de temples. C'est le plus petit temple qu'on a à Bali, ça s'appelle le temple de familial.
Un temple familial, oui, à la maison.
À la maison traditionnelle. Pour chaque maison, l'hindouiste ici à Bali, on a toujours le temple de familial. C'est pour des esprits ancêtres. Et le deuxième temple qu'on a à Bali, on appelle le temple territoire ou le temple du village. C'est pour ça qu'en village à Bali, on a toujours trois temples principaux. Et le troisième temple qu'on a à Bali, on appelle le temple du public. C'est possible pour tout le monde et c'est pour des touristes quand même.
Aussi. Mais nous, les touristes, on ne va pas dans les temples de village.
Exactement.
Et pas dans les temples à la maison non plus.
C'est plus privé.
Familial. Oui. Précisons aussi, puis on aura, je pense, l'occasion de le redire, Bali, c'est un peu une exception hindouiste ici en Indonésie, puisque l'Indonésie, on le dit souvent, en Europe, on le dit, est le plus grand pays musulman au monde. Hein.
Exactement. Indonésie, en général, c'est le plus grand pays pour les musulmans, mais jusqu'à sur l'île Bali...
C'est l'exception.
Oui, si vous passez le séjour ici à Bali, exactement, vous allez sentir le vrai Indonésie. Sur l'île Bali, on a d'autres religions quand même. On a musulmans, on a catholiques, bouddhistes, bien que la majorité, c'est l'hindouiste. Sur l'île Bali, on a très, très bon tolérant.
Dwikamela, on passe à côté d'une maison, mais ça, c'est un temple ou c'est une maison?
C'est la maison et le temple.
Le temple privé?
Exactement, c'est ça, on appelle le temple de familial.
Ah oui, mais alors attends, moi je croyais que le temple familial, c'était une toute petite chose dedans.
Non.
Mais c'est énorme.
C'est énorme quand même.
Ah, le temple, on a l'impression, c'est pour ça que j'avais l'impression que chaque maison était un temple.
Exactement, pour chaque maison, toujours on a construit le temple de familial.
Oui, mais attends, pour décrire le temple familial, mais c'est... Alors qu'est-ce qui compose le temple familial?
Dans le temple de familial, dans notre croyant, c'est pour les esprits ancêtres. Parce que les hindouistes à Bali, nous croyons avec réincarnation. C'est quand il y a le membre de famille qui meurt comme ça. La cérémonie, ça s'appelle crémation.
Je ne sais pas s'ils vont encore, mais les touristes allaient assister aux crémations.
Exactement.
Comment décrire ça? C'est pour y mettre des urnes ou...
Il y a beaucoup d'hôtels dans le temple.
Voilà, des hôtels.
Oui, des hôtels dans le temple de familial. Et pour chaque hôtel, nous croyons c'est pour différents dieux ou la déesse. Par exemple, dans le coin... Vous voyez, il y a un temple avec les trois ponts.
Oui, c'est, trois portes.
Oui, trois portes, exactement. C'est pour les trois dieux principaux, nous croyons, pour les balinais. Pour l'hindouiste, on appelle pour le dieu Brahma, Vishnu et Siwa. Et tout de suite, il y a un temple normalement avec deux étages. C'est pour l'esprit ancêtre. Il y a le temple dans le coin, c'est pour le symbole, le dieu du soleil. Et il y a aussi dans le temple, dans le centre, au milieu du temple, normalement, il y a un plus grand bâtiment. Il y a dans le temple, c'est pour le fret de village.
Comment dit-on ? Ah, le prêtre.
Oui, le prêtre. Ouais, il est comme le patron. Quand on
ah oui, c'est ça. Ah, le patron, c'est le patron, oui. C'est le boss.
C'est quand il y a des cérémonies dans le temple de Vela.
Mais attends, mais c'est énorme. Tu parlais des cendres des personnes qui sont décédées.
Oui.
Les cendres, on les garde là ou pas ?
Non, pour les cendres de corps, on est jeté dans la rivière ou
dans la mer. Dans la mer,
elles
sont dispersées.
Exactement.
Par exemple, là, dans ce temple familial, il y a combien d'hôtels ?
Il y a beaucoup, ça dépend de la famille, exactement.
Ça peut être une dizaine ?
Ah, il y a plus que 10.
Plus que 10.
Par exemple, chez moi, il y a plus que 10 hôtels.
Mais alors, si j'exagère, j'exagère exprès, mais on pourrait presque dire que le temple prend autant de place que la maison d'habitation ? Je regarde la largeur du temple et je regarde la largeur de la maison.
Exactement.
C'est presque pareil.
Oui, c'est presque, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais...
Et la maison à côté aussi, c'est énorme.
Oui, c'est là.
Il y a autant de temples, ils sont construits sur une longue durée. Ça veut dire que c'est une maison familiale depuis plusieurs générations.
Exactement. Ici à Bali, on habite dans la maison traditionnelle. Parce que le terrain, on a ici à Bali, qui passait par les générations à générations.
Ça,
on reste tout le temps dans la maison.
Donc toi, tu habites dans la maison avec tes parents?
Exactement. Dans la maison traditionnelle, parfois on habite avec une seule famille. Parfois on habite avec plus de familles. Ça dépend c'est combien... Des garçons, ils ont à la maison. Ouais. Parce que dans notre culture, quand on est mariés ici à Bali, les garçons, on a responsabilité pour regarder les parents,
les grands-parents.
Oui,
c'est pour ça que les Indonésiens ou d'autres sont choqués en voyant qu'en Europe, les personnes âgées sont dans des maisons de retraite. Et ça te choque.
Oui, à Bali, on n'a pas la maison de retraite comme
non,
ça.
Mais ça te choque.
On reste tout le temps dans la même maison.
Par exemple, Luika, toi, tu es marié ?
Oui, j'ai déjà marié.
Et donc, tu vis avec ta femme ?
Exactement.
Dans la maison ?
Oui.
Avec tes parents ?
Avec mes parents, avec mon frère, avec mon oncle. Chez moi, on habite avec trois familles. C'est la famille mon père et de mon oncle. Et on habite environ avec 15 personnes dans la maison.
Oui, mais alors, il faut une grande maison.
Beaucoup.
C'est plutôt l'épouse qui va vivre dans la maison de son mari que le mari qui va vivre dans la maison de son épouse ?
Oui, c'est plus les femmes, elles habitent avec son mari. Parce que les garçons, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, les garçons ont la responsabilité pour prendre soin des parents quand ils sont vieux.
Et donc, tu as des frères et sœurs ?
J'ai un frère.
Le frère habite avec vous aussi ?
Exactement. J'habite ensemble. Oui.
Et ça va ? Ça se passe bien ?
Alors, on a le bon sauce et on a le mauvais. Parfois, si on a des conflits, mais c'est le bon sauce. J'expliquais exactement. Quand on habite avec beaucoup de la famille dans la maison traditionnelle, ça veut dire... Il y a plus de personnes qui ont responsabilité avec la maison traditionnelle et aussi avec le temple. Parce que vous imaginez, pour construire le temple comme ça...
C'est énorme.
On a besoin de plus d'argent pour construire. Si on habite avec plus de personnes, plus de la famille, ça veut dire que c'est plus facile comme ça. Mais le problème, c'est sûr, dans la famille...
Après, il y a des conflits aussi.
Oui, parce qu'on a des conflits, c'est parfois, mais...
Comme dans toutes les familles.
Exactement.
Même dans la famille balinaise.
Mais vous connaissez le premier conflit dans la famille qui vient de la cuisine. Normalement, après les enfants, ils ont mariage, les parents, ils vont construire une cuisine. Pour chacun de son enfant, on a
la cuisine. Chaque enfant a sa cuisine.
Oui. Vous connaissez le premier problème dans la famille qui vient par la cuisine.
Ah, pour éviter qu'on se marche sur les pieds dans la cuisine et qu'il y ait des critiques, on a une seule maison, mais beaucoup de cuisine.
Exactement. Dans la maison, on a beaucoup de la cuisine.
Et chacun prépare une nourriture différente?
Ou vous mangez tous ensemble toujours?
On mange tout ce qu'avec ma famille. On habite ensemble avec mon frère, mes enfants et aussi ma femme. Quand mon frère il est marié plus tard, mon frère il va
avoir sa cuisine.
Notre cuisine pour mon frère. Mais mes parents, ils vont regarder par mon frère. Parce que le plus petit, normalement, c'est comme le patron.
Le plus jeune, c'est le patron.
Le plus jeune, exactement.
C'est le patron.
Oui, c'est le patron de la famille. C'est ça, la culture.
C'est pas le plus âgé.
Non, c'est le plus petit parce qu'il va rester avec les parents. Mes parents, après, il va manger avec mon frère comme ça, quand il est marié.
Ah oui, c'est marrant ça. Parce que partout, c'est l'aîné qui est un peu le chef de famille.
C'est l'aîné, mais ici à Valais, c'est le dernier.
Si c'est une fille, elle part vivre avec son mari.
Exactement, mais parfois, c'est dans la famille, jusqu'à la fille, il n'y a pas les garçons. La fille, elle doit rester à la maison pour garder ses parents. Ça veut dire, les filles, elle va chercher les maris pour vivre dans sa maison.
Et est-ce qu'à Bali, on autorise les mariages entre personnes du même sexe?
Si c'est à Bali, on ne trouve jamais les balinais. Je pense qu'il y a, mais pas beaucoup.
Simplement, ils ne peuvent pas être au grand jour.
Oui.
On ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas.
Oui, il y a, c'est sûr, il y a. Mais c'est rare, petit comme ça. Et regardez à côté le temple, mes amis, il y a la maison de la communauté. La maison de la communauté, on dit le Bali Banjar, c'est ça l'endroit pour faire de la réunion avec...
Pour le village?
Oui, pour le village. Il y a aussi un bâtiment, on a fait une cloche, vous voyez, une cloche. C'est pour appeler des villageois. C'est quand il va faire quelque chose, le patron ou le maire du village, il va appeler des villageois par une cloche.
Il y a combien d'habitants dans un village comme ça? Quelques centaines?
On avait environ avec 100 familles.
Ah, 100 familles?
100 familles, environ 500 personnes dans le village. Mais parfois, il y a petit village, il y a plus grand que 100 familles, il y a plus petit que 100 familles parfois. Ça dépend.
Ouais, bah c'est très agréable, hein? Très joli ce village. Il n'y a pas beaucoup de touristes ici?
Ah oui! Un petit peu très loin pour les touristes ici, tout le monde ça, il n'y a pas beaucoup de touristes ici. C'est différent comme Ubud, Kuta.
Alors c'est ça. Mais l'idée de ces émissions, c'est de découvrir un Bali plus traditionnel et de ne pas aller se balader à Legian, Kuta, Sanur et les grands pôles touristiques.
Oui.
Donc c'est bien, c'est parfait.
Retrouverons Dwika sur le chemin du temple de Tanalot. Faisons connaissance avec notre nouvelle guide qui nous emmène au marché et dans une école. Les deux thématiques de l'émission sont proposées par une agence, Shanti Travel, qui invite les touristes à découvrir Bali autrement.
Écoutez la pemandu wisata di Indonesia. Suivez le guide en Indonésie.
Swastiastu, serahajang semeng, selamat pagi en Indonésie. Ça veut dire c'est bonjour. Voilà, je m'appelle Ayu. Le guide français à Bali, maintenant, c'est visiter les marchés traditionnels.
Ayou, nous allons vivre une journée traditionnelle à Bali. C'est un peu l'idée du voyage, c'est de découvrir un Bali assez traditionnel. Ayou, nous allons faire notre marché. Si on devait expliquer à nos amis où nous sommes à Bali.
Ici, le village s'appelle de Bedugul, c'est la région qui s'appelle de Tabanan. Mais ici, de spécial, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup d'épices, parce qu'ici, c'est un peu froid.
On est un peu en altitude, donc on va au marché. C'est un marché traditionnel à Bali. C'est une petite ville ici?
Oui, ici c'est une petite ville. Ça s'appelle Baturiti. Le marché traditionnel ouvre le matin, à peu près de 4h du matin jusqu'à midi.
Horaire, 4h du matin jusqu'à midi, on va très tôt au marché.
Oui, parce qu'ici c'est une petite ville jusqu'à midi. Après, la capitale d'un passage, on a le grand marché traditionnel. C'est ouvert toute la journée jusqu'à de la nuit.
À Denpasar, dans la grande ville de Bali. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne au marché. Et il est 10 heures, c'est déjà tard.
Plus que du monde, c'est 4 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin.
Plus de monde de 4 heures du matin à 6 heures du matin, il faut se lever très tôt alors.
Oui, parce qu'ici, c'est d'habitants malinais que la dame, c'est les femmes, parce que préparer pour manger, normalement, la dame prépare manger que le matin pour petit déjeuner et dîner.
Ah, elle prépare le matin pour toute la journée.
Oui, et c'est comme ça.
À quelle heure on se lève?
Normalement, c'est la dame 5h du matin. 5h du matin, réveillée. Pourquoi les balinais? Ils cessent de marché traditionnel parce que le prix, c'est pas cher.
Ah, c'est moins cher.
C'est moins cher que supermarché.
Parce qu'il y a aussi des supermarchés.
Il y en a un supermarché, mais c'est le plus cher.
Plus cher. Et ça, c'est plus traditionnel. Voilà. Donc, c'est un marché couvert, hein, et on trouve tout ici.
Oui, c'est ça.
Pour se nourrir, mais on trouve des vêtements aussi. Là, je vois des vêtements. On achète tout ici.
Voilà, il y en a vêtements, mais plus que légumes, des épices. De...
Plutôt les légumes et les épices. On va voir. Ouais. Alors.
C'est les gâteaux balinés pour les cérémonies.
Gâteaux balinés pour les cérémonies. Mais oui, ça, c'est gâteau industriel. Hein.
Oui, c'est ça. Ici, c'est du riz et du riz collant.
Du riz collant, du riz gluant.
Voilà, c'est ça, le riz gluant. Ici à Bali, pas moins.
Par mois.
Oui, il y en a de 3 petites cérémonies.
Ah, 3 petites cérémonies par mois.
Ça s'appelle de pleine de lune.
Pleine de lune.
Toujours, c'est les Balinais préparer des petites offrandes avec des fruits, des gâteaux et des palmiers.
On vient acheter ici pour les petites offrandes.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas pour les manger.
Après, oui. Le premier pour offrande, après pour manger.
Ah, quand même.
Oui.
Alors les fruits, si on regarde un peu les fruits, qu'est-ce qu'on va trouver comme fruits?
Le fruit, celui-là, c'est les mandarines.
Donc les mandarines, là on n'est pas perdu.
Vous connaissez, oui. Celui-là s'appelle le fruit du serpent. C'est vous connaissez?
Non.
En balinais, ça s'appelle le salak. C'est goût comme de pomme.
Ah, c'est comme une pomme.
Oui, comme de pomme. Typique fruit les balinais.
Le fruit du serpent.
Oui. Pourquoi le nom de fruit du serpent?
La peau.
Voilà,
est
une peau comme de serpent.
Comme une peau de serpent. Ça, c'est le dragon fruit.
Voilà, c'est le fruit du dragon à Bali.
Le fruit du dragon, c'est très, très bon. Hein.
Oui, c'est très sucré parce que dedans, les couleurs violettes, c'est très sucré.
Donc, c'est très beau, c'est blanc et
voilà,
avec des petites...
Voilà, pique de graines dedans.
Voilà, des petites graines dedans.
Le blanc, c'est moins sucré.
Qu'est-ce qui est sucré?
Violet.
Ah, c'est la partie violette qui est sucrée. Voilà, les pommes, ça va, on n'est pas perdu avec les pommes. C'est... Et puis, ça sont les mangues. La mangue, elle pousse à Bali, la mangue?
Oui, maintenant c'est la saison de la mangue.
Ah, c'est la saison de la mangue.
Oui, maintenant, c'est le prix que c'est pas cher. Il n'y a pas de saison, c'est le prix que c'est plus cher.
Ah oui, c'est ça. Mais il vaut mieux acheter les fruits en saison. Donc oui. En ce moment, c'est la saison de la mangue. Et la mangue n'est pas chère.
À Bali aussi, on a les fruits, ça s'appelle de mangoustan.
Et mangoustan. Ça, c'est très, très bon, ça. Si on achète en France, c'est très, très, très cher. Alors ça, c'est quoi? Les feuilles?
Les noix de coco.
Les feuilles?
Oui, les feuilles, les noix de coco. En balinais, ça s'appelle les janour.
Une botte de feuilles de noix de coco. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On va réaliser des petits paniers et on va mettre dedans les offrandes.
Oui, petite offrande, c'est pour tous les jours, par jour, une fois.
Une fois par jour.
Voilà.
Les offrandes, c'est important. On va au temple familial.
Oui.
Chaque maison a son temple familial.
Oui.
Il faut aller faire les offrandes au temple familial tous les jours.
Oui, tous les jours. Il y en a à les préparer que le matin, il y en a à les préparer que le soir.
Mais par exemple, toi, tu es déjà allé au temple familial?
Et c'est moi, normalement, préparer que le soir.
Ah, le soir.
Travailler, voilà.
Mais c'est tous les jours.
Voilà, c'est tous les jours.
Alors, il faut préparer à manger aussi pour la famille, mais il faut aussi préparer les offrandes pour le temple familial.
Oui, et moi, normalement, préparer 100 pièces une semaine, 100 pièces par semaine, par 7 jours.
Et pourquoi 100? Si c'est une par jour.
Normalement, et moi, c'est travailler 7 jours, après reposer, préparer 100 pièces.
D'avance?
Oui. Et moi, normalement, préparer toute seule. Parce que moi.
Ah, parce qu'on peut les acheter toutes faites.
Voilà.
Tout préparer.
Voilà. Parce que c'est préparer toute seule, c'est moins cher. Si vous connaissez les poissons, c'est du thon.
C'est du thon?
Oui.
Mais c'est tout petit.
Ici à Bali, c'est du thon, c'est petit.
Et tout petit thon?
Il y en a les grands, mais plus que petit thon.
Bah, j'aurais pas pensé que c'était du thon. Et il est pêché où le thon?
Pas de qui, pas de mon équipe, mancheng, n'est-ce pas?
Oh, d'accord, il est comme ça, il est comme ça.
C'est de l'Est balinais, ça s'appelle de Karangasem.
Ouais.
Parce que de chaque village, c'est différent les poissons. Mais c'est du thon plus que l'Est balinais.
Mais est-ce qu'on mange beaucoup de poissons quand on famille balinaise?
Non, normalement les balinais, pas beaucoup, ils
pas
mangent
beaucoup,
de poissons. Hein. Parce que ici, c'est le prix de poisson, c'est trop cher que tofu.
Ah, c'est trop cher.
Voilà, ici les balinais, beaucoup, ils mangent de tofu, tempeh et poulet.
Donc du poulet,
oui,
du tofu,
pas cher. Oui.
Et tempeh.
Vous connaissez tempeh? C'est la même que tofu. Ça s'appelle tempeh.
Tempeh, c'est comme le tofu.
Voilà, comme le tofu.
Et les légumes, donc, alors ça c'est quoi les, ces légumes?
Les légumes, ça s'appelle des bean sprouts, comme des épinards.
J'allais dire, ça ressemble à des épinards.
Oui, oui.
Et puis ça, par exemple, ça ressemble à un gros cornichon.
C'est un concombre.
Ah, c'est un concombre.
Oui, le concombre.
C'est un concombre, mais la peau est différente.
Oui.
Tu l'as, c'est du soja.
Oui, c'est ça, c'est soja.
Mais soja qui pousse à Bali aussi.
Oui, c'est à Bali aussi.
Ah voilà, le maïs, ok. Et puis les bananes. Alors les bananes, il y a des bananes vraiment différentes. Hein.
Oui, c'est ça. Bananes, c'est différent, mais c'est différent goût. C'est sucré, c'est de petites bananes, c'est sucré. C'est les grandes bananes, c'est pas sucré.
On a des bananes effectivement très longues.
Ici, normalement, les bananes, les grandes comme ça, préparées pour des gâteaux. Bananes beignets.
Ah, pour les beignets de bananes.
Oui, bananes.
Bon, et puis il y a des ananas. Bon, ben, ça, on n'est pas surpris.
Là, c'est les papayes. Hein,
les papayes. Là, il y a les rambutans. Donc, rambutans, c'est très bon. Hein.
Ici, oui. Comment c'est sucré?
C'est un peu comme un litchi aussi.
Oh, mais c'est ça. Comme un litchi, c'est sucré. Celui-là, c'est moins.
Moins sucré.
Oui, moins sucré.
Mmh. Alors, ça, c'est quoi?
Celui-là, ça s'appelle de Christophine.
Christophine. Christophine, c'est à la forme d'une poire.
Celui-là, ça s'appelle de lemon grass. Vous connaissez?
Citronnelle.
Citronnelle.
C'est des longues tiges, hein, un peu comme des oignons frais. Ça ressemble un peu aux oignons frais.
Les petits piments, c'est très fort. Les balinais, toujours utiliser des petits piments comme ça.
À Bali, on aime la cuisine pimentée.
Voilà, pimentée. C'est sans piment, sans bon.
Il n'y a pas de piment, c'est pas bon.
Oui, c'est pas bon. Celui-là, les curcuma jaune.
Curcuma.
C'est curcuma.
Jaune.
Oui. Celui-là, comment ça s'appelle?
Gingembre. Oui, gingembre.
Là, c'est l'aubergine aussi.
Aubergine. Ouais. On a vu la culture des œillets d'Inde. Dans la montagne, des champs entiers d'œillets d'Inde. Et toute cette culture des fleurs, c'est pas pour vendre des fleurs chez des fleuristes, c'est pour les offrandes, le marché des fleurs.
Mais ici, c'est toujours pour cérémonie. Maintenant, il y a beaucoup préparé comme ça, c'est pour mariage, décoration, mariage, cérémonie.
Ah, aussi pour les mariages.
Oui, ici, maintenant.
Donc, on cultive l'œillet d'Inde. On remonte le marché. Et alors, si on sent... Ça sent l'encens.
L'encens, oui. Parce que si les balinais sont obligés pour la fête de la prière, mais obligés avec de l'encens. Par boîte petite offrande comme ça, c'est un...
Un bâton d'encens.
Oui.
Oui, mais là, ici, on nous fait brûler de l'encens.
A commencé la dame ici, avant d'ouvrir, mettre de petites offrandes avec de l'encens.
Ah, parce qu'il y a des offrandes dans le marché aussi.
Oui. Beaucoup de sikiniki. Monique.
Donc ça, c'est quoi?
Aujourd'hui, il y en a des spéciales jours.
Ah, aujourd'hui, c'est une fête spéciale.
Oui, ça s'appelle de Tilam.
Tilam, c'est une des trois du mois.
Oui, c'est ça, trois pour le mois. Maintenant, c'est mettre des offrandes dans les familles temples.
On met des offrandes dans le temple familial.
Et oui, celui-là, c'est pour mettre de, en haut pour le bien.
Alors, une grosse offrande qu'on met en haut.
Après, ici, ça s'appelle de Segahan.
Comment décrire ça? C'est une feuille.
Mettre de, en bas.
Qu'est-ce que c'est alors ça?
Ici, c'est symbole de Trinité. Vous connaissez?
Mais ça, c'est une feuille de quoi?
Celui-là, c'est les feuilles, les bananes.
La feuille de bananier.
Et après, c'est avec du riz.
L'offrande, c'est avec du riz.
Oui.
Donc, il y a du riz de toutes les couleurs.
Oui, c'est blanc, jaune, rousse, noir et mélangé.
C'est important, les couleurs?
Oui, c'est les couleurs blanc et jaune. Vishnu, c'est le dieu l'eau. L'eau bénite, l'eau la mer, la rivière, c'est que l'eau. Après, le noir, c'est symbole du dieu Shiva. C'est le vent.
Donc Shiva, le noir, le riz noir, le vent.
Voilà.
Chaque couleur de riz est liée à un dieu.
Il y a une signification, oui. Ouais. Parce que c'est des rousses. Il s'appelle le dieu Brahma.
Donc rouge, c'est Brahma. Brahma, c'est le dieu
Le feu.
Le feu.
Voilà.
C'est pour ça que c'est rouge.
Cela, le centre, c'est mélangé. C'est toutes les couleurs.
Et puis après, on mélange au milieu.
Voilà.
Et ça, on va le poser par terre.
Oui, c'est symbole pour sortir le mal.
Pour faire sortir le mal.
Voilà. C'est en haut, symbole pour bonheur.
Pour le bonheur. Bonheur.
La famille.
Donc, on est toujours dans les offrandes. Donc vraiment, on vient au marché pour acheter à manger, mais on vient acheter pour confectionner les offrandes ou acheter les offrandes déjà toutes préparées. Ça dépend si on les fait soi-même.
Oui.
Et c'est aussi important d'aller au marché pour la nourriture qu'on va manger que pour nourrir les esprits. Hein.
Ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu.
Avant d'arriver à l'école, continuons à marcher avec Wayan Dwika vers Tanalot, l'une des cartes postales les plus célèbres de Bali, tout particulièrement au coucher du soleil. L'idée de rejoindre ce lieu de pèlerinage à pied est bien plus séduisante que d'arriver directement en voiture sur le parking du site.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Ayoua, on a fait le marché, qu'est-ce que tu as acheté pour midi?
C'est pour midi. Cela, c'est pour moi, oui, pour des offrandes, c'est pour cérémonie.
Ça, c'est autre chose, ça, on ne mange pas.
Non, pas manger. Maintenant, c'est à sauter, ça s'appelle des légumes de Christophine.
Donc, on a acheté de la Christophine, oui. Verte, effectivement.
Pour midi, après de oignons.
Des petits oignons violets.
Oui, après
de l'ail.
Après
et du piment. Gros piment rouge.
Gros piment rouge, c'est pas pimenté.
Donc c'est un piment pour les touristes.
C'est ça, c'est pour piment pour touristes. C'est tout.
C'est tout.
Voilà, pour déjeuner.
Donc c'est un menu végétarien.
Voilà, menu végétarien.
Bon, on reprend la voiture. Et maintenant, Ayou, on va à l'école.
Maintenant, oui, maintenant c'est on va à l'école. Après l'école de compagnie pour organiser pour activités balinaises.
Activités, on va faire des activités balinaises.
Une heure par ici. Vous allez de village s'appelle de Marga, à peu près où là.
Pour aller à l'école.
Voilà.
Allez, c'est parti.
Pemandu wisata di Pulau Bali. Suivez le guide à l'île de Bali.
Un petit mot encore, Dwika, sur ces temples. Moi, ça me frappe. C'est vrai que ça saute aux yeux, surtout ici dans ce village où on voit les maisons les unes à côté des autres et où je pensais qu'en fait, au lieu que ce soit des maisons, c'était des temples, mais ce sont bien des maisons d'habitation familiale. Et donc, il faut ajouter encore quelques petites choses sur ces temples.
Dans notre culture, notre religion, le temple c'est le plus important parce que par exemple quand on va construire de la maison, une nouvelle maison, le premier point je dois construire le temple et après on peut recommencer pour construire des bâtiments dans la maison traditionnelle.
Quand même on peut dire ça, c'est qu'on va d'abord penser à construire une maison pour les dieux avant de construire une maison pour la famille.
Oui. C'est ça, comme ça, tout à fait. Le temple, c'est le plus important que la maison de la famille ou des gens.
Du cas, les familles vont passer du temps, enfin, vont aller prier, faire des offrandes dans le temple familial. C'est tous les jours.
Exactement.
Avec brûler de l'encens.
Oui. Cette offrande, on fait avant, on va recommencer les activités. Dans notre religion, c'est nous croyons pour équilibre entre le bon et mauvais, le bon esprit et mal esprit. Et le deuxième, c'est pendant qu'on fait ce rituel, on va demander avec le Dieu, voilà, c'est pour le bon saut, la bonne journée, comme ça.
Les bonnes choses.
Oui, la bonne chose. Mais dans cette offrande, il y a aussi, on met de l'ensemble, c'est ça les présentations pour les trois dieux principaux. Ça s'appelle le Dieu Brahma, le Dieu Vishnu et le Dieu Shiva.
Mm-hmm.
Nous croyons le dieu Brahma, c'est comme le dieu symbole de feu.
Et dans symbole
cette,
de feu.
Symbole de feu. Dans cette offrande, on est présenté par de l'ensemble. Et le Vishnu, le dieu Vishnu, le symbole de l'eau, c'est quand il y a quelqu'un qui fait cette rituel, il va donner de l'eau bénite. Et le troisième, le Shiva, c'est le symbole de l'air.
Donc le feu, l'eau et l'air.
Exactement.
Donc ça, mais c'est le matin, c'est le soir, c'est combien de fois par jour?
En fait, ça suffit une fois.
Une fois. Et plutôt le matin ou le soir?
Normalement, c'est tôt du matin.
Le matin.
C'est le meilleur moment.
Quand il fait frais.
On peut faire cette rituel, c'est quand on a de temps. Mais ça suffit une fois par an. Pardon, par jour.
Pas par an.
Oui, une fois par jour. Et pour cette offrande, qui est fait par les femmes, normalement.
Ah, plus. C'est plutôt les femmes.
Oui, plus les femmes. Parce que les hommes, c'est moins religieux que les femmes.
Ah, les femmes sont plus religieuses. Il faut préparer un plateau, hein.
Exactement, préparé par les femmes. Et après, on fait ça, cette offrande devant la maison, dans le coin de la maison, dans le temple de familial, et puis dans la chambre, dans la cuisine, dans le sacré, l'endroit où nous croyons il y a dans la maison traditionnelle.
On est dans le village, toujours Duka, et on longe des rizières. Il y a des rizières partout à Bali?
Bien qu'il n'y a pas partout, exactement, la plantation de riz, ça dépend de l'altitude.
Ça dépend de l'altitude?
De l'altitude, parce que quand on est cultivé le riz, on a besoin beaucoup d'eau.
Beaucoup d'eau.
C'est le plus important. Par exemple, ici...
On est dans une partie plate, hein, aussi,
exactement,
de Bali.
Exactement, c'est plus plat.
Enfin, on est près de la côte, mais on est toujours près de la côte à Bali. Mais disons, on est au sud, sud-ouest de Bali.
Exactement, à côté de la Tanalot. Pour les paysans ici, pour la culture de riz, ils peuvent cultiver le riz toute l'année avec 3 fois récoltés par an.
C'est ça. Ici, 3 récoltes par an,
oui.
Donc c'est jackpot.
Oui, jackpot. Mais pour notre produit, le riz ici à Bali, jusqu'à on utilise pour l'île de Bali.
Pour la consommation de l'île.
Exactement.
D'abord familial.
Exactement, la première fois, les paysans, ils vont utiliser... C'est combien de kilogrammes ils ont besoin pour la prochaine récolte. Et après, ils vont revendre dans le marché, pour les restaurants, comme ça.
Ouais, donc dans ta famille, on cultive le riz aussi?
Chez Thomas, ma famille, je n'ai pas de terrain pour cultiver le riz. Tellement de ça, c'est mon travail, si je n'ai pas de touristes. Je suis fait sculpture en bois.
Ah d'accord, donc c'est tu sculptes le bois.
Oui, c'est comme la majorité, là. Le premier métier pour les Balinais, pour les villageois. Il y a moitié qui travaille comme l'agriculture le riz, comme des paysans. Et il y a moitié qui travaille en bois, comme la sculpture en bois.
La moitié des Balinais plantent le riz, récoltent le riz,
oui.
Et l'autre moitié sculpte le bois.
Exactement.
Pour faire des statues, mais aussi du mobilier.
Des meubles, aussi beaucoup de choses.
Ça, c'est exporté aussi dans le monde entier.
Exactement. Pour la sculpture en bois, on est exporté par bois pour le meuble.
Alors, il y a aussi un métier souvent du tourisme.
Exactement.
Il y a le tourisme plus un autre métier. Souparta, le chauffeur, me disait que pendant la Covid, il a travaillé dans les rizières.
Exactement, parce qu'ils ont de terrain, tellement de ça, il fait agriculture.
Et là, il y a un poster de Lionel Messi, qui fait de la pub ici pour des glaces.
Regardez, mes amis, il y a quelqu'un qui travaille planter du riz aussi. Ouais, tout travail dans les rizières, ils font à la main. C'est dur le travail, exactement.
Tu es plan par plan,
oui.
Le riz. Là, ce n'est pas le moment de la récolte. Ici, c'est le moment où on plante.
Le planter de riz. Hmm. Parce qu'après de la récolte, on doit planter du riz. Quelqu'un qui travaille dans les rizières, il y a plus de personnes âgées. Il n'y a pas de jeunes qui sont intéressants pour travailler dans les rizières. C'est très, très dur. Et c'est un petit peu au soleil, dans l'eau, il n'y a que des personnes âgées qui travaillent dans les rizières.
Mais si c'est dur, etc., on pourrait se dire que c'est plutôt les jeunes qui vont travailler là parce qu'ils sont plus vigoureux, mais c'est plutôt les personnes âgées.
Oui, c'est plus les personnes âgées parce que les jeunes, on les prépare pour travailler avec des touristes et aussi comme la sculpture en bois, comme ça.
Et les femmes et les hommes, hein?
Oui.
Tout le monde.
Les hommes et les femmes balinais, on travaille. Tout est pareil, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes.
Et puis quand on a marché, à côté des rizières, il y a l'arrivée d'eau. Et on a vu un monsieur qui s'est complètement déshabillé, qui s'est mis entièrement nu. Et il a été prendre un bain, hein, faire sa toilette.
Ah non, c'est prendre une douche. On l'a
une
vu.
Douche.
Oui, parce que c'est souvent...
Enfin, il s'est baigné dans l'eau, hein. C'est pas une douche. Quand il n'y a pas un peu de douche...
C'est baigné dans la rivière. C'est l'habitude, c'est normal pour les Balinais. Par exemple, quand on habite dans le village, on a beaucoup de la rivière, de l'eau c'est très propre et de l'eau c'est très fraîche.
Donc même si chez toi, même si tu as une salle de bain, aujourd'hui chez toi,
oui.
Tu préfères aller te baigner dans la rivière ?
En été, parfois j'aime bien aller
dans la rivière.
Dans la rivière pour se baigner. Parfois pour laver des vêtements aussi, c'est plus facile dans la rivière par rapport à dans la toilette.
Et tu vas te baigner en famille avec ta femme ou c'est chacun son tour ?
Avec beaucoup de monde.
Avec beaucoup de monde, c'est collectif.
Collectif. C'est vraiment uniquement sur l'île de Bali, on est baigné avec voilà, beaucoup de gens dans le village, avec des villageois,
ouais,
avec des enfants, les personnes âgées.
Et ici, on n'est pas gêné de se déshabiller, de se mettre tout nu dans la nature ?
Oui.
Le monsieur, tout à l'heure, il s'est déshabillé complètement, hein ?
Oui, c'est vrai.
C'est pas un problème ?
Non, on n'a pas de problème pour ça, ça dépend c'est où l'endroit. Pas dans le sacré endroit.
Pas dans un endroit sacré ?
Oui, pas dans l'endroit sacré, on peut faire ça.
Mais moi, je me souviens, la première fois que je suis venu à Bali, j'ai vu des femmes aussi se déshabiller, se mettre totalement nues aussi.
Oui.
Devant tout le monde, finalement. Elles le faisaient pudiquement. Mais elle se déshabillait dehors.
Oui, c'est parce que c'est l'habitude pour nous.
C'est l'habitude.
Attention, il y a des camions.
Là, nous sommes dans le village. Alors, est-ce que dans chaque village, il y a une fabrique de temples ?
Il y a beaucoup de villageois qui travaillent comme la sculpture en bois.
Ici, on est dans un atelier.
Exactement.
On fabrique les temples pour les temples familiaux.
Le temple de village, quand même, ça s'appelle bois hibiscus. Il fait le pomme d'abord.
Et c'est comme une armature.
Exactement. Et après, il met la décoration ou la sculpture en bois à côté.
Dessus. Donc il a appris quand il était enfant.
Exactement. C'est par exemple moi, je suis comme la sculpture. Et j'ai appris vraiment quand j'ai 13 ans. 13 ans, j'ai appris mon frère. Il m'a expliqué comment on peut faire la sculpture en bois.
Ton frère ou ton père ?
Mon père.
Ah, ton père, ton père.
Mon père m'a expliqué comment on peut faire la sculpture en bois. Et on a besoin environ un an pour apprendre. Mais un an, c'est vraiment le débutant. Et pour faire le bon la sculpture en bois, on a besoin de 50 à 600.
Oui, il fait chaud hein, aujourd'hui
oui,
à Bali. Hein, c'est humide. Hein.
Oui, c'est humide.
Parce que là, c'est la saison des pluies.
Exactement. Depuis octobre à mois de mars ou avril, c'est la saison de la pluie. Mais météo ici à Bali, c'est pas sûr tous les jours. Bien que dans le matin, il fait beau, il fait du soleil, mais de l'après-midi, parfois, il pleut.
Il pleut toujours un petit peu, mais pas tous les jours.
Pas bon, tous les jours. Ouais.
Peut-être un peu tous les jours. Ok.
Terima kasih. Hein.
Terima kasih.
Terima kasih. Vous passez une terima kasih. Hein.
Merci. Et vous pouvez dire suksema aussi. Suksema.
Suksema.
Pour dire merci à Baliné. Suksema.
Suksema.
Vous pouvez dire mawali, ça veut dire de rien.
C'est comme terima kasih, sama sama.
Exactement. C'est pareil. Suksema et mawali.
Suksema. Suksema.
Suksema.
Fin de ce premier suivi le guide baliné. Avez-vous préparé votre cartable ? En compagnie de Ayou, nous visitons l'école du village de Tunjuk. Nous sommes au nord de la capitale Denpasar, presque au centre de l'île. L'école de Tunjuk accueille régulièrement des touristes qui contribuent à son financement.
Écoutez la pemandu wisata di Indonesia. Suivez le guide en Indonésie.
Nous allons visiter une école, Ayu?
Oui, maintenant, c'est visiter de l'école première, c'est de, dans le village Tunjuk. Ce village-ci s'appelle de Tunjuk.
Tunjuk?
Oui, c'est le nom de Tunjuk.
C'est une école primaire?
Oui, l'école primaire.
Il y a les offrandes d'ailleurs par terre devant l'école.
C'est pour bonheur pour les enfants dans l'école.
Là, c'est l'école le matin. Ça va se terminer à peu près à midi?
Normalement, c'est le matin, la classe première.
Et ça, à partir de quelle heure?
8h jusqu'à midi.
Juste 4 heures.
Après-midi, continuer avec d'autres classes jusqu'à le choix de 17h.
Et ça reprend donc à quelle heure? Si c'est 4 heures, à 13h?
Oui, c'est de 13h.
13h, 17h.
Oui, 13h, 17h.
Avec les mêmes professeurs?
Ici, oui, parce que c'est de petites villas. Chaque classe, c'est la même professeur.
Avec des élèves le matin et d'autres élèves l'après-midi.
Voilà.
Moi, Nyoman.
Thierry.
Voilà, lui s'appelle Nyoman.
Les enfants ont une tenue traditionnelle.
Ça dépend. Aujourd'hui, mercredi, spéciale cérémonie s'appelle des Tilam.
Toujours la fête.
Voilà.
C'est pour ça qu'on porte les, voilà, les vêtements balinés.
Voilà, utiliser ce vêtement baliné, comme ça. Pour de la fête de la région Tabanan. Aujourd'hui, c'est de 529 ans.
L'anniversaire de la région.
Voilà, l'anniversaire de la région.
Tabanan, effectivement, voilà, Tabanan. Kota Tabanan.
Voilà, c'est de 529 ans.
Et c'est quand même solennel, c'est un peu militaire aussi. Donc ici, c'est l'école primaire.
Oui, ici, c'est l'école primaire jusqu'à des 6 classes. Mais ici, parce que la petite ville, par classe, pas beaucoup d'enfants. Il y en a 10 d'enfants, il y en a 15 d'enfants, jusqu'à 20 d'enfants.
Donc école primaire, collège ailleurs, après le lycée.
Après le lycée, c'est aussi des songes et l'école, ce n'est pas ici. Mais de village ici, il y en a un collège et un lycée.
Et alors après, pour aller à l'université, il faut aller où?
Normalement, c'est des capitales, Aden Passa.
Aden Passa.
Oui, oui.
Et puis après, peut-être ailleurs aussi. Ce ne sont pas des classes surchargées. Hein.
Oui, c'est ça.
Et les écoles sont mixtes, hein, garçons et filles.
Ici, mélangé, garçons et filles. Oui, c'est mélangé.
Et le rythme scolaire, on va à l'école combien de jours par semaine, Ayou?
Par semaine, c'est 6 jours par semaine.
6 jours d'école par semaine.
Mais c'est que reposé, que dimanche, c'est reposé.
Donc lundi, samedi, école.
Voilà.
C'est tous les jours.
Sur tous les jours.
Même samedi après-midi aussi.
Oui.
Bienvenue, Baliné.
Parce qu'aujourd'hui, il y en a des spéciaux jours. Comment c'est des spéciaux vêtements? Normalement, on utilise les couleurs blanc et rouge. Blanc, rouge, symbole de drapeau de l'Indonésie. C'est rouge, blanc.
Aujourd'hui, c'est une fête.
Voilà, en fait, c'est utiliser des vêtements balinés. Celui-là, ça s'appelle le typique vêtement baliné. Mais c'est que l'homme obligé d'utiliser des santours. Celui-là, s'appelle des santours.
C'est ouais, colombe, habillé c'est surtout femme. En blanc. Hein.
Voilà. Ces femmes s'appellent de kebaya.
C'est brodé. Hein.
Comment c'est typique, fêtement baliné. Normalement, les balinés utilisés comme ça, c'est pour fête de la prière. Mais sa couleur, c'est différent. Voilà, les couleurs blanches, c'est pour le dio.
Couleur blanche, c'est plutôt pour la prière.
Voilà. Après, il y en a les couleurs blanc et jaune, oui. Blanc et jaune. Mais il y en a les couleurs vert, violet, rouge, comme ça, pour regarder de mariage cérémonie. C'est comme vous, c'est tout le noir, le marron, c'est pour regarder de les personnes mortes.
Et voilà l'enseignante.
Oui, de sa couleur, il y en a des significations. Mm-hmm.
On va quand même laisser entrer l'enseignante dans sa classe.
Voilà, c'est la dame, c'est des professeurs ici. Niki Mouremourena. Oui, voilà, voilà. Maintenant, les enfants, présentez-vous avec vous, c'est de le nom, comme ça. Après, maintenant.
I would like to introduce yourself to our student, and our student introduce to you.
Okay.
Okay. Ouais. Hello.
Hello.
Good morning.
Good morning.
How are you?
I'm fine.
Thank you. I'm just fine, thank you. I'm nice to see you. And now, I would like to introduce you. You come here, say your name.
My name is Apta. I'm 9 years old.
And you speak well English?
A little.
The next one?
My name is Prama. I'm 9 years old. Nice to meet you too.
Nice to meet you too. I am Thierry. I am much older and I'm very happy to meet you.
You come from?
I'm coming from France. Do you know where is France?
He knows.
Paris.
Ah, good. Menara tertinggi di Prancis?
Menara
Eiffel.
Eiffel Tower.
He knows about Prancis a little, the capital and the Menara Eiffel.
And they study English every day?
Yeah, they study English, not every day, 1 week English course.
Donc il y a un cours d'anglais chaque semaine.
According to our curriculum, national curriculum and local curriculum.
Ah oui, en fonction du programme, donc le local et national.
Local curriculum, the teacher teach about Balinese language.
Ah donc ici on apprend la langue balinaise, la langue locale
Hindu,
de l'île.
Hindu religion.
La religion hindoue.
Handcraft to make offering.
De l'artisanat.
Yeah. Oui. English lesson.
Et puis il y a des cours d'anglais.
Yeah, that is local curriculum.
Donc ça c'est le ce qui est prévu ici pour l'île de Bali. Laisser travailler.
You ask anything else? Our national symbol, maybe President Jokowi as the Vice President. In the middle is our national philosophy of way of life that we call Pancasila. Five mean Pancasila. Sila mean human behavior, like in your country, liberty, equality, and fraternity. Pancasila consists of five principles. The first principle is believe in God.
Donc les cinq grandes règles, le principe tout d'abord croire en Dieu.
The symbol is golden star.
L'étoile d'or.
Yeah.
Golden star.
Golden star. Believe in God. And then, you know, chain.
La chaîne.
Humanity in civilized and justice.
L'humanité des droits humains et la justice.
Number three, Benyong Creek. Nationality and unity.
Unité.
Because Indonesia have many race, many archipelago. Race Javanese, Batakis, and Bugisi, so many.
Yeah. En fonction des races différentes ici en Indonésie.
Number four, democracy.
Ah, démocratie. Double head. Ouais, la tête de taureau.
Democracy. And number five is rice and cotton.
Numéro 5, le riz et le coton.
Rice and cotton, the symbol of social justice for all Indonesian people.
Symbole de la justice sociale pour tous.
And our national emblem.
Et l'emblème national.
We call Garuda.
Ah, Garuda.
Eagle.
L'aigle. Garuda Indonesia.
Yeah. The philosophy in it, the feathers in wing. 17 feathers.
17 plumes.
The feathers of tail consists of 8.
Et 8 dans la queue.
It means August 17.
Ah, le 17 août.
Our Indonesian independence.
C'est la journée de l'indépendance.
And the next 45.
Et après 45 plumes.
All of it, 17 August
1945. Ah,
45. Our national
independence.
Okay. That is the philosophy base of our national emblem.
Soksuma.
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 Soksuma, thank you.
Prima di bangsa.
précision sur les propos de Newman. Et parenthèse, les prénoms balinais disent s'il s'agit du premier ou dernier né. Wayan, c'est toujours l'aîné, et Newman, le troisième. Quand Newman parle d'apprentissage à l'artisanat, pour les enfants à l'école, c'est apprendre la confection des offrandes. Enfin, Pancasila, c'est la philosophie de l'État indonésien, avec ses cinq principes, la croyance en un Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l'unité de l'Indonésie, une démocratie guidée par la sagesse et la justice sociale pour tout le peuple indonésien.
Bravo.
Garuda Pancasila, our philosophy transfer to the song Garuda Pancasila.
C'est la fin de ce premier suivi le guide balinais. Terima kasih, Ayumira et Wayan Dwika, l'école du village de Tunjuk. Suivez le guide préparé avec la complicité de David Golin, l'agence de tourisme durable Shanti Travel, et Eka Monkar, directrice de la Maison de l'Indonésie à Paris, 5 rue Jean Zay dans le 14e. Terima kasih Eka pour les transitions sonores. Réalisation Roman Feokyu. Les sites internet shantitravel.com et lamaisondelindonésie.com.
Terima kasih dan sampai jumpa di Pulau Bali. Merci beaucoup et à bientôt à l'île de Bali.
Ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.
Peut-on aimer tout le monde ? L'amour du prochain, qu'il soit proche ou lointain, est souvent un défi. Avec bienveillance, Marie Grand, philosophe, nous en parle aujourd'hui.